On connaît tous une réplique de Comédie par cœur, un film qu'on a vu 15 fois et parfois une suite que l'on préfère oublier. Thomas Croisière, lui, a décidé de se pencher précisément sur ces numéros 2, 3, voire davantage, dans la comédie Contre-attaque. Cinéphile, passionné, ancien producteur et surtout grand amoureux du rire collectif, il vient parler avec nous de films cultes, de souvenirs de cinéma et de cette drôle de question: pourquoi a-t-on toujours envie que ça continue? Bonjour Thomas Croisière.
Bonjour. Et dites-moi, t'es un peu sévère avec moi parce qu'on se connaît. Je suis encore producteur, car je suis la seule personne qui accepte de produire Thomas Croisière. Parce que l'artiste, tu sais, il a pris un boulard hein, après le succès de son premier spectacle, Voyage en comédie. Donc il est ingérable, donc bah je me gère. Voilà, et ça me fait très plaisir de vous entendre. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé.
Exactement. Ton premier voyage en comédie s'est écrit presque instinctivement, un film en appelant un autre, au point que la première version durait 3 heures, si je me
Pareil.
souviens bien.
Oui.
Cette
En temps ressenti, 12 jours.
fois. Cette fois-ci, tu pars avec l'idée peut-être plus construite des suites. Est-ce que ça a complètement changé ta façon d'écrire?
Bah, en fait, ce qui est toujours marrant, c'est que moi, je suis un peu le roi de la procrastination. Alors, je ne sais pas vous comment vous fonctionnez quand vous créez des choses ou quoi ou qu'est-ce, mais moi, en fait, j'y pense très très longtemps, mais sans m'en rendre compte. Et puis, à un moment, je me dis, bon, allez, il faut le faire, hein, parce que, tiens, je joue dans 3 semaines, ce serait bien qu'il y ait un spectacle. Et donc là, je prends le crayon et tout s'enchaîne assez naturellement. Il y a une espèce de travail de maturation dans mon cerveau qui se plante quelque part sans que j'y pense. Et donc, le principe d'écriture, mais je vous l'avais raconté sur le premier, c'est effectivement, bah, je suis parti de, bah, sur le premier, pour le coup, c'était Le Père Noël est une ordure, et puis Le Père Noël est une ordure m'a amené à d'autres choses. Et là, en fait, le point de départ, tu as toujours besoin d'un déclic, je le dois à mon fils cadet, parce que mon fils cadet, Gaston, il était invité à une fête chez un de ses copains et de classe, et la maman avait demandé de faire une petite vidéo de Gaston qui raconte un souvenir avec son pote, et puis de faire une photo pour le livre d'or, tu vois, pour que le gamin puisse avoir un souvenir de ses 13 ans. Enfin bon, c'est super comme idée. Et Gaston est pile poil dans l'âge où quand tu essayes de le prendre en photo, eh ben, il fait des têtes de crétin. Et donc, je n'ai pas une photo de lui sans qu'il ait le doigt dans le nez, sans qu'il fasse un sourire idiot, sans qu'il plaque ses cheveux. Et je peux pas lui en vouloir parce que quand je regarde les albums de famille de mes parents, effectivement, moi, entre 13 et 15 ans, sur toutes les photos, j'ai une tête de crétin. Et donc, ça, d'un coup, bah, je lui ai dit, mais je vais envoyer ça à la maman de ton pote. Il m'a dit, bah ouais, bah, envoie ça. Et d'un coup, bon, bah, je le fais, je m'exécute, puis je reprends mon petit vélo, puis je savais qu'il fallait que j'écrive ce spectacle, qu'il fallait que j'écrive cette suite. Et là, je me suis dit, mais voilà l'idée. Et je suis parti d'un truc tout simple, qui est une vanne très cruelle, parce que je suis un papa. 2010, j'ai eu mon premier fils, il s'appelle Alfred. Là, je montre une très belle photo de mon fils, aîné. Et puis, je dis, 2 ans plus tard, j'ai eu envie d'en faire une suite, Gaston. Et là, je montre sa tête de crétin. Et je dis, et on voit tout de suite que c'était pas une bonne idée. Parce que quand on y réfléchit, et tu l'as dit en introduction, la problématique des suites, elle est un peu partout dans tout ce qu'on fait. Tu vois, est-ce que je rappelle mon ex étant une question récurrente, ou est-ce que je vais revoter pour machin ou pour bidule? Et donc, tu vois, est-ce qu'il fallait que je fasse un deuxième enfant? Mais c'est aussi, est-ce qu'il fallait faire les bronzés 2? Est-ce qu'il fallait faire les bronzés 3? Certains diront qu'il fallait pas faire les bronzés 3, mais le producteur qui a fait plus de 10 millions et demi d'entrées pense qu'il faut vraiment faire les bronzés 3. Est-ce qu'il fallait faire La Vérité si je mens 2? Pourquoi il n'y a pas de Cité de la peur 2? Enfin voilà, la question des suites est de remettre le couvert, eh ben elle est partout, elle est très présente au cinéma. Et vous qui connaissez cette matière par cœur, quand tu regardes le box-office de l'année dernière en France, dans le top 10, tu as 10 films, 7 suites. Hein, tu as à la fois Mission Impossible 9, tu as L'Étuche 5, tu as Jurassic Park 7, tu as le numéro 1 qui est Avatar 3. Zootopie 2, et tu vois, et puis même si j'étais un peu de mauvaise foi, je dirais que Minecraft, c'est un peu une suite puisque c'est l'adaptation d'un jeu vidéo. Et quand on regarde F1, ça n'est ni plus ni moins que Top Gun Maverick, mais à la place des F18, tu as mis des F1, tu vois, donc et en plus c'est le même réalisateur. Donc vraiment, les suites au cinéma, c'est partout. Et c'est pour ça que je l'ai appelé La Comédie Contre-attaque, parce que c'est en hommage à une des, pour moi, meilleures suites de toute l'histoire du cinéma, qui est l'Empire Contre-attaque, la suite de la Guerre des Étoiles.
Hein, tu expliquais qu'un film pouvait rater une sortie en salle, mais devenir culte justement à d'autres supports comme le streaming.
Oui.
Est-ce que tu penses qu'on peut encore fabriquer des comédies que toute une génération connaît par cœur? Est-ce que c'est
Bah,
possible, ça?
évidemment, regarde, il y a eu un exemple il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle Un petit truc en plus, qui je pense, bah voilà, qui a quand même fait plus de 10 millions d'entrées aussi. C'est des véritables phénomènes. Et en plus, ce qui est fun, c'est quand tu regardes le top 12 du box-office français, hein, des films français, tu as 11 comédies. Il y a un drame qui s'est un peu perdu dans le lot, qui est La Grande Illusion, mais sinon, de Intouchables à Bienvenue chez les Ch'tis, en passant par La Grande Vadrouille, Mission Cléopâtre, voilà, tous les plus gros succès du cinéma français, c'est des comédies populaires. C'est des comédies que on allait voir au cinéma en famille ou qu'on regardait le dimanche soir à la télévision tous ensemble. Et tu vois, c'est encore quand tu fais 11 millions d'entrées pour le petit truc en plus, bah, c'est effectivement quelque chose qui rassemble de 7 à 107 ans. Et je suis convaincu qu'il y aura autant de répliques cultes que dans Le Corgneau avec oh bah elle va marcher beaucoup moins bien forcément. Donc voilà, et c'est ça qui est fort dans la comédie. C'est pour ça que je célèbre ça, c'est parce que ça célèbre le rire ensemble. Et tu
Justement,
vois, on...
est-ce que tu as identifié des films ou des scènes précises qui font réellement rire toutes les générations, vraiment tout le monde au même moment? Ou alors à
Ah
l'inverse,
bah.
des classiques devant lesquels il y a des, par exemple, les jeunes qui ne se retrouvent plus?
Mais c'est ça qui est formidable. Et ben, tu vois, et c'est tout à fait l'angle du deuxième spectacle. Parce que sur le premier, je parlais beaucoup de moi. Ben, vous avez vu, j'adore parler de moi. Hein. Et sur le deuxième, je suis davantage dans la transmission. Et donc, oui, il y a des choses qui font rire tout le monde, malgré nous. Je suis désolé, mais quand tu prends Jean Carmet et Louis de Funès sous les étoiles, qui se mettent à péter et ça fait des éclairs. Alors, ça nous afflige, je suis d'accord avec toi. Mais ça fait rire tout le monde. Une blague de paix, ça fait rire de 0 à 200 ans. Ça fait rire toi chez toi, ça fait rire un Indien d'Amazonie, ça fait rire un Inuit sur la banquise. Une blague de paix, ça fait rire tout le monde. Ça rassemble. Et au cinéma, si tu regardes la scène d'introduction du Corgneau, tu sais, avec la deux chevaux qui explose suite à l'accident, la deux chevaux de Bourvil, et puis, oh, bah, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Tout le monde rit. Ça rassemble. Et en revanche, ce qui est drôle dans mon spectacle, c'est que je ressors des choses plus récentes. Par exemple, je ressors un extrait de Fatal Bazooka, qui est pour moi une comédie très réussie de Michael Youn sur l'univers du rap, où je ressors une scène de Babysitting 2, hein, le film de Philippe Lachaud, où à un moment, il se retrouve à faire du parachute nu au-dessus de la baie du Brésil. Je ne vous en dis pas plus. Là, d'un seul coup, je me rends compte que je perds mon public plus âgé. Et que ça fait hurler de rire les jeunes. Et à l'inverse, tu vois, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène du grand restaurant, alors vous, j'en suis sûr, mais quand Louis de Funès explique la recette du soufflé de pommes de terre, Unt Muscatnuss Herr Müller, là, ça fait rire enfin, ça fait rire toute la salle. Donc c'est ça qui est fun, c'est que tu as du rire, et puis parfois ça rit pas au même rythme ou aux mêmes choses. Tu vois, sur OSS 117, quand il va à l'ambassade, dans Rio ne répond plus à l'ambassade de RFA, et qui demande s'il y a un mémorial ou une amicale d'anciens nazis, ça fait rire différemment que le Muscatnuss, les générations un peu différemment aussi. Donc voilà, ça rassemble, mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que bah, ça rigole. Moi, le but du jeu de ce spectacle, de toute façon, en l'appelant la comédie contre-attaque, si ça rigole pas, c'est que vraiment j'ai raté mon métier.
Alors justement, ton rôle dans le spectacle, c'est quoi exactement? Tu défends des films, tu recontextualises, tu expliques pourquoi ça fait rire à telle époque, ou tu laisses
Bah,
le
enfin.
public faire son choix?
Alors moi, le applaudissez, tiens, plaf, riez là, etc. Moi, je déteste ça, hein, le fait que parce que j'ai une valeur cardinale qui est la liberté, et surtout, on est libre de ne pas rire, de ne pas apprécier tel ou tel sujet. Moi, le but du jeu, c'est un de célébrer ces génies de la comédie que sont bah Jean-Marie Poiret, Colin Serrault, Gérard Oury, Yves Robert, Francis Weber. Alors ça, c'est pour les réalisateurs, mais tu peux aussi prendre les comédiens, c'est-à-dire célébrer le talent de tous ces gens-là qui nous ont fait rire et qui nous ont rassemblés. Et moi, l'idée, c'est de montrer que depuis la création du cinéma jusqu'à aujourd'hui, on raconte un peu toujours les mêmes histoires et on rit. Un petit peu, tout se nourrit de tout. J'ai un exemple très clair pour moi qui va vous parler. LOL, vous vous souvenez, le film de Lisa Azuelos? Eh ben, il pourrait pratiquement porter le sous-titre de La Boum 3. Hein, tu vois, c'est, et comme quand on regarde Coexister, hein, le film
Oui,
de
oui.
Déboué qui est plutôt proche
Génial.
de nous avec ce rabbin, ce prêtre et cet imam qui montent un groupe. Tu vois, à un moment, il y a une scène à la radio où on demande à Ramzi, à qui joue l'imam, quel est votre rapport à la communauté juive? Et il décrit la scène de danse de Rabbi Jacob. Eh ben, je trouve ça formidable. Et c'est à hurler de rire. Et c'est ça que je trouve fascinant. C'est un film que c'est qu'un film de 2017, cite un film de 1973. Et tout ça, ça crée du lien entre les générations. Je suis persuadé que sans la famille Groseille, de La vie est un long fleuve tranquille, eh ben, il n'y aurait jamais eu L'Étuche. Je pense que sans la scène de la cuisine des tontons flingueurs, hein, il y a aussi de la bête, il y a encore autre chose. Il y a aussi de la pomme, ou il y a aussi de la betterave. Eh ben, il n'y aurait pas eu la scène de la gnôle dans Les Bronzés font du ski. Et tu vois, j'ai retrouvé, et je ressors d'ailleurs une interview de Philippe Lachaud, hein, qui est aujourd'hui le roi de la comédie et du box-office en France. Hein. Son Marsupilami vient de faire 6 millions d'entrées. C'est le premier film français du box-office de cette année. Bah lui, il raconte qu'il a voulu faire du cinéma en regardant les films de Pierre Richard à la télévision avec ses parents. Il s'est dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, c'est normal que dans ces films, on retrouve ben, Christian Clavier du Splendide, ou qu'on retrouve Didier Bourdon, des Inconnus, ou Gérard Jugnot. Parce qu'en fait, tout ça, ça se répond et ça se suit de génération en génération. C'est ce que j'aime.
Je serais curieux d'avoir ton avis, Thomas Croisière, sur, avec le recul, des films comme On se calme et on boit frais à Saint-Tropez ou Mon curé
Bien
chez les
sûr.
nudistes.
Ben, ce qui est très intéressant sur On se calme et on boit frais à Saint-Tropez et Mon curé chez les nudistes, parce que c'est des films du début des années 80, c'est que c'est une autre époque de produire, une autre façon de produire du cinéma. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les chaînes de télévision. Donc les chaînes de télévision n'étaient pas obligées d'investir dans le cinéma. Donc ce sont des films de producteurs. Et ce sont en fait des films, on va dire, un peu d'exploitation. Donc c'était des films assez maîtrisés, qui étaient des grosses comédies populaires, qui tâchaient un peu, mais comme, tu vois, je célébrais le cinéma de Philippe Clerc dans mon premier spectacle, avec qui est le réalisateur, entre autres, d'un film de Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, ou Plus beau que moi, tu meurs. J'adore en fait ces films. C'est-à-dire que c'est un produit fait pour Marie. Alors parfois tu te dis, mais comment ils ont eu cette idée? Comment ils ont pu oser faire ça? Et parfois ça part tellement loin que tu te dis, mais tu vois, ça explore des contrées que mon imagination ne pouvait pas créer ou imaginer. Donc moi, à partir du moment où ça fait rigoler, et ces films-là ont été des succès, sauf On se calme et on boit frais à Saint-Tropez, qui est d'ailleurs le dernier film de Max Pécasse, hein, parce qu'il n'a pas marché. Donc c'était vraiment la fin d'une époque en 1987. J'en discutais avec Patrice Lecomte quand il est venu voir mon spectacle le premier, et qui me dit, j'avais oublié le cinéma de Philippe Clerc. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit, bah, moi j'adore. Il me dit, à partir du moment où il y a plus d'1 million de personnes qui allaient voir ces films-là, c'est que ça veut dire quelque chose. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour ces films-là, qui étaient en plus... Tu vois, les producteurs à l'époque, ils risquaient leur maison pour faire exister ces conneries-là. Donc, c'était pas la même façon de faire du film. Et moi, je veux dire, en plus, tu as cité On se calme et on boit frais à Saint-Tropez. En vrai, c'est une comédie, mais si tu revois le film, alors déjà dedans, tu revois Luc Hamet, que moi j'aime beaucoup et qui est une voix très importante de ma génération, parce que c'est lui qui doublait Roger Rabbit, mais c'est aussi lui qui doublait Marty McFly dans Retour vers le futur. Et surtout, la grosse excuse de On se calme et on boit frais à Saint-Tropez, c'était de voir une paire de seins toutes les 2 minutes. C'est-à-dire, et je les ai chronométrés, parce que c'est fabuleux. C'est-à-dire, toutes les 2 minutes, tu as une fille qui passe en maillot de bain. Et dans le film, d'ailleurs, tu as la très jolie poitrine de Brigitte Lahaie, qui était bah, une des grosses icônes du cinéma X de l'époque.
Thomas, la comédie contre-attaque, ça se passe où et jusqu'à quand?
Écoute, alors déjà, ça se passe où? Ça débute, hein, ça va débuter le 21 septembre au Lucernaire, qui est un théâtre à Paris dans le 6e arrondissement que j'aime beaucoup parce que j'y ai joué pendant 2 ans en voyage en comédie. Donc j'adore les gens là-bas, il y a un bar, enfin bon, voilà, les équipes techniques sont super, je retrouve Tom à la régie, je retrouve les ouvreuses, enfin c'est un peu la maison, tu vois, j'aime bien, j'y ai bien travaillé pendant 2 ans, donc je l'installe là-bas jusqu'en janvier 2027, et puis si ça se passe bien, je pense que on prolongera un peu ou je reviendrai plus tard. Donc voilà, à Paris de septembre à janvier, et puis en parallèle, je suis en tournée dans toute la France. Donc là, je vais aller à Pinmar, je vais aller à Toulouse, je vais aller à Lille. Enfin, déjà, je passe dans des endroits où où il y a ma mère pas trop loin, mes sœurs. Non, mais ça, c'est génial. Tu vois, j'ai ma sœur qui va avoir 50 ans. Bon, comme je joue le jour de ses 50 ans, je joue à Paris. Mais le week-end, hop, je vais aller jouer à Toulouse pour lui fêter ses 50 ans. Alors, j'espère qu'elle va pas
Pas
écouter
mal,
cette émission
ça.
parce que je lui prépare une surprise. En plus, j'ai invité certains de ses potes et derrière, j'ai réservé un bar pour qu'on fasse la fête jusqu'au bout de la nuit. Ça tombe bien, le lendemain,
Évidemment.
je ne joue pas. Donc voilà, je commence à le jouer un petit peu partout. Puis j'espère que ça va m'emmener comme le précédent. Tu vois, je l'ai fait tourner pendant 4 ans. D'ailleurs, je continue aussi de le jouer parce que les deux produits sont complémentaires. Et puis, je vais vous donner une information en avant-première. C'est la première fois que je vais le dire. Et c'est pour vous, ça me fait plaisir de vous le dire. Parce que moi, je suis un malade mental, vous me connaissez. Bien évidemment que j'ai envie de faire une trilogie. J'ai envie que mon spectacle soit à la hauteur de la trilogie du dollar, la trilogie du Seigneur des Anneaux, la trilogie du Parrain. Donc voilà, ou la trilogie fondatrice de Star Wars. Donc voilà, je commence déjà à travailler à mon troisième spectacle, alors que j'ai pas commencé à jouer le deuxième. Je suis un taré, hein. Je m'en veux beaucoup. J'ai envie de me gifler, vous savez.
Est-ce que finalement ce spectacle, c'est raconter les films, mais c'est un peu raconter sa propre histoire en même temps, du coup, hein?
Ben toujours, tu sais, François Truffaut, il avait écrit un livre justement que je recommande à tous, qui s'appelle Les films de ma vie. Voilà, moi j'ai plein de films dans ma vie, et toi aussi, enfin chacun de nous. Et les films que l'on a vus et que l'on aime et que l'on apprécie, ils racontent toujours quelque chose sur nous. Et puis moi, ce que je trouve super avec les films, c'est que toi, tu peux voir un film, je peux voir le même film avec toi, et on le vivra pas de la même manière. C'est ça qui est magique avec le cinéma. C'est quand on regarde un film, on apporte aussi ce qu'on est. Et ce qui est chouette aussi, c'est de revoir les films. Parce que quand tu vois un film à 20 ans, t'as pas la même réaction quand tu le vois à 60 ans. Je citais La Boum tout à l'heure. Moi, bien sûr, quand j'ai vu La Boum, j'étais Sophie Marceau, j'étais Vic Béretton. Tu vois, je l'ai montré à mes enfants. Eh ben, quand je l'ai revu, maintenant, je suis Claude Brasseur, je suis son daron. Et je le savoure pas de la même façon, et pourtant, j'y prends autant de plaisir. Et c'est génial avec le cinéma. C'est pas par hasard que vous faites ce que vous faites, et c'est pas par hasard que je fais ce qu'on fait. C'est que le cinéma, c'est la vie. Voilà. Et donc, quand on parle de cinéma, on parle aussi de notre vie.
Merci Thomas.
Eh ben, merci à vous.